Radio Spirale. Dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal, se tenait le 29 mai 2015 un colloque bilingue ayant pour thème « Langue poétique, Poetic Languages ». Radio Spirale présente la troisième de quatre parties avec les conférenciers Liane Moyes et Jean Portante.
Je vous présente Liane Moyes, si vous ne la connaissez pas déjà. Liane Moyes qui est de l'Université de Montréal, professeure. Elle a été pendant quelques années... Elle s'est occupée du groupe de recherche ERILAC sur la littérature anglo-québécoise. Elle a abondamment publié sur le sujet. C'est une des sommités en la matière, donc on est très heureux de l'avoir ici aujourd'hui avec nous. Donc, je crois qu'au départ, on avait parlé de parler d'histoire, mais je pense que la proposition initiale a changé un peu.
Oui, ben je commence avec l'histoire littéraire. Et après, En fait, je suis un peu gênée parce que je vais faire une présentation très, très académique.
Mais c'est ce dont on avait besoin.
Alors, vous m'excuserez si c'est un peu... Si aussi, j'ai coupé comme une folle parce que je pense que j'avais prévu à peu près une demi-heure.
Oui, oui.
Finalement, j'espère que ça va...
Non, pas
ça
de problème.
Sera un peu plus court que ça.
Sinon, j'aurai mon rôle de maître de cérémonie.
Alors, Interarts Poetics and the Undoing of Anglo-Quebec Literary History. Okay. If, as Ted Blodgett argues, the generic function of literary history is always in some measure one of nation building, then the category of Anglo-Quebec literary history is conflicted from the outset, an unruly conjunction of Québécois and Canadian. Because there are few conventional literary histories of English language writing in Quebec, I'm using histories here in the broadest sense of texts which sketch a portrait of the field in historical terms. There are histories that frame Anglo-Quebec literature as part of Canadian literature or as a tradition in itself. They tend to emphasize historical continuity and the long-standing presence of English language writers in the territory of Quebec. And there are histories that locate Anglo-Quebec literature in relation to Quebec letters. And these works tend to recognize a long history of writing in English in Quebec, but signal a key shift in the cultural location of that writing following the Quiet Revolution. In Five-Part Invention, Blodgett draws a comparison between literary histories of Canada and those of Quebec. Canadian literary histories, he suggests, begin with geography. Canada as a space in the process of discovery, whereas Quebec literary histories begin with a decisive moment, conquest, and highlight other moments that attest to the nation's continuity. Blodgett does not consider the case of Anglo-Quebec literature. Nonetheless, his categories of analysis are potentially helpful in describing tensions within Anglo-Quebec literary history among narratives of cultural shift or dislocation, narratives of cultural continuity, and narratives of what we could call territorialization or mapping. In other words, Anglo-Quebec literary history in all its heterogeneity draws upon both traditions. It borrows the decisive moments and cultural longevity, or the claim for cultural longevity in the case of Anglo-Quebec literature. So it borrows these decisive moments and cultural longevity of Quebec literary history, and what I'm calling a bit playfully the land claims of Canadian literary history. The slackening of national narratives over the past two decades has allowed for an inquiry into Anglo-Quebec literature as a non-national literature, that is to say, a field that inhabits the edges of national literatures and elaborates itself in the spaces of tension between them. Increasingly, Anglo-Quebec writing is approached from the perspective of comparative literature, that is, as an unruly space of overlap between literatures, between languages, between cultural spheres. At the same time, as Blodgett points out in an earlier book, comparative studies always run the risk of assuming the sameness of the things they compare. They can only work if scholars are attentive to the histories, the material relations of contact that have brought English and French language literature into contact. Literary history is usually understood in terms of the narratives that give order and shape to a given heritage. But these narratives have a tendency to smooth over discontinuities and focus on a single literary tradition rather than looking at points of contact. In this paper, I want to take a more poetic approach to Anglo-Quebec literary history. I'm interested not in the broader story of the field, but in how specific elements come together, associate with each other, and elaborate forms of exchange. I'd like to move beyond grand narratives of continuity or shift to specific instances of how Anglo-Quebec literature interacts with and explores its interface with Quebec, including how it maps itself at the level of the poetic imaginary onto the territory of Quebec. I take inspiration from the Histoire de la littérature québécoise, published in 2007. The latter offers no overarching narrative of cultural transfer between Francophone and Anglophone writers, merely examples of punctual relations at various moments. For example, the Rencontre des écrivains organized by Liberté between 1957 and 1960, F.R. Scott's translations of and epistolary exchange with Annie Baer in the 1970s, Gail Scott's collaborations with Nicole Brossard and France Théoré in the 1980s, David Solway's dialogue with Gaston Miron in his poem The Table. Although the authors of Histoire do not enter into detail regarding these instances of contact and exchange, their strategy invites us to reflect further on the forms of interaction which constitute what we call Anglo-Quebec literature. They don't, in fact, call it Anglo-Quebec literature. Without suggesting that a literary work in English has to have an explicit connection to Quebec in order to be considered Anglo-Quebec literature, in other words, I don't want to make that argument here. I'd like to pursue the question of writers' affiliations with Quebec. Such affiliations are not always articulated in literary terms, that is, via intertextual relations to Quebecois literature. Often they take more oblique forms, effects of translation, mixing of languages, generic crossings, and interactions among media. And in this paper, I'm especially interested in interactions among media. Specifically, I want to consider the way Stephanie Bolster's cycle of poems, Deux personnages dans la nuit, from her 1999 collection, Two Bowls of Milk, engages with the paintings of Jean-Paul Lemieux. In my reading, Deux personnages negotiates a relation to Quebec via a conversation that takes place across media even more than across languages. I want to explore the possibility that Bolster's inter-arts practice allows her to cross national borders and to mark the difficulty of that crossing. Writing about painting, a process she qualifies as ekphrastic, emphasizes the non-transferability or non-translatability of different media, the fact that they're not the same thing. And at the same time, and nonetheless, the desire for transfer and translation, the will to keep trying. In analyzing Deux personnages, I benefit from the scholarship of Judith Bisset, who translated Two Bowls of Milk into French. In the terms of Bisset, il ne faut pas se surprendre que Bolster ait choisi de dialoguer avec une telle figure de la culture québécoise. Il y a sans doute là une tentative de s'intégrer à sa nouvelle patrie, une façon de s'acclimater à l'autre, en espérant que l'autre en fasse autant. Bisset is attentive to Bolster's gesture of dialogue with the paintings of Lemieux, her gesture towards, her movement towards Lemieux, and she's eager to reciprocate through the gesture of translating Bolster's poems. So now I want to turn to some poems, and the first poem in the cycle. Bolster's poems draw attention to their inter-arts poetics through their titles, taken from specific canvases by Lemieux, and also drawing attention to inter-arts poetics through direct references to the media of writing and painting. So in an intérieur, 1930, which is the date of the painting, she borrows directly the title plus the date. In each case, each shadow my profile casts on page or yours on canvas makes another face to live within until tonight. This mirrors frozen you in charcoal gray. You've traced your shades to find despair becomes you. You should not have turned your brush upon yourself so soon. My shadows grown still darker will not lighten. How finally we're caught, those roses in the wallpaper, half open into wings of flightless moths. These lines emphasize the commonalities between the two artists. In both cases, their work allows them to explore other selves, enables a kind of self-projection onto the two-dimensional surface of canvas or page. In the imagery of the poem, these personae are shadowed with despair. Both writer and painter, the final couplet asserts, are caught, half open, flightless, by their self-portraits and by their medium. If the topoi of the poem emphasize links, the compositional strategies emphasize distance. The couplet the verse form bolster uses throughout Deux Personnages locates the word page on one line and canvas on another, thereby bringing writer and painter into relation while holding them apart. Just as they are caught in the terms of their own portraiture, so also are they caught in the lines of the poem. Via this conversation between media, Bolster's poems negotiate a relationship to the imaginative territory of Quebec. When asked by Anne Compton what it is about Lemieux's work that so interests her, Bolster responds, "When I moved to Quebec City, I didn't have a sense of belonging there at all, and I didn't know how to relate to the landscape." Bolster takes some solace in that interview in the fact that painting outside Quebec was as difficult for Lemieux as writing outside British Columbia was for her. But even more importantly, Lemieux's paintings offer Bolster a way of relating to the landscape and to its more abstract correlative space. From the mid-1950s onwards, Lemieux was known as le peintre des grands espaces. We have here 1910 remembered one of the poems that Bolster speaks to, although I don't talk about it here. In another poem from the cycle, she remarks that Lemieux made himself lonely, turned his parents into monuments apart, and I think the spatial organization of that really shows that. So all of this on the still illustrating this question of Le Peintre des Grands Espaces Blancs. Ville enneigée, which touches on abstraction, something I'll return to shortly. White space figures prominently in the paintings, whether those paintings portray human figures, frozen landscapes, or enormous skies. White space is often a figure of distance for Lemieux, the distance between husband and wife, members of family, the distance of a vast landscape punctuated by tiny buildings or figures, the distance crossed by a train or by the two black lines of an auto route. The second poem in the cycle, Le Train de Midi, takes white space as its point of departure. On first entering the white field, I think I'm dead, and this no heaven. After taste of sacrifice, I've left the coast, crossed Rockies, plains and shield, to sleep beside my love and learn his tongue. Born here in winter, you nod welcome, let me stand beside you to watch the train pass. We aren't going anywhere. A look at Lemieux's 1956 painting helps us understand the speaker's sense that she is dead and this no heaven. The painting portrays a train crossing a winter landscape. The train is overwhelmed by the landscape, whose only distinguishing features are two thin lines of trees along a horizon which lies high in the painting and which divides it into two-thirds snow and one-third gray sky. Like many paintings from Lemieux's mid-career, Le Train de Midi is characterized by a certain abstraction and gives very little sense of human presence. Indeed, the speaker has difficulty locating herself in this painting. all she can do is stand beside the painter and view the landscape as he sees it. Even at their most abstract, Lemieux's paintings show some interest in the subject they depict and in the relation of the viewer to that subject. The static posture of the speaker contrasts sharper, this static posture standing beside Lemieux contrasts sharply with the narrative of migration from one side of the continent to the other. I've left coast, crossed Rockies, plains and shield to sleep beside, line break, my love and learn his tongue. Here again, the line break within the couplet interrupts the rhythms of idiomatic language and emphasizes distance and difference. The break between beside and my love disturbs any easy vision of continuity, this time between the speaker and her lover. At the same time, the repetition of the preposition beside in lines 5 and 8, beside the painter, beside the lover, emphasizes adjacency with regard to both. And in this way, the poem multiplies the relations to which the title, Deux Personnages, might refer. And it broaches the topic of language through that of love, through the pleasure of learning a lover's tongue. Languages are presented in a relationship of contact rather than substitution. Toward the end of the poem, we read the couplet, C'est triste la neige. Your words freeze and drop. These two lines, the words of Lemieux and the response of Bolster, cannot replace each other. They stand beside each other. At the same time that Bolster's speaker is learning French, her poems are giving voice to Lemieux's paintings, relieving them of their silence. But her page, she finds, comes to look like his canvas. In Le Train de Midi, standing beside him, looking at the landscape from his angle of vision, makes her into Winter's daughter. In another poem, The Far West, she concludes, my pages are nearly white these days, I'm shutting up. That I write, no longer me, but you alone in the midst of what I call nothing and you home. In some ways, having a conversation with Lemieux's paintings, entering into the visual imaginary of his Quebec, renders the speaker mute. This question is especially prominent in the poem Le Far West, which begins, a few acres of snow. In a Montreal December, I come upon your few feet of west, a tawny field grazed on by some animals. They might be antelope, and this some view of Africa, or cows and Idaho. What cowboy hat do you imagine my umbrella is? In other words, how could you mistake the rainy windward side of the Rockies for the prairies? Voltaire's famously dismissive formulation is presented here in English, and in this way, Bolster's poem draws a parallel between Voltaire's portrayal of New France and Lemieux's portrayal of the Canadian West. In both cases, she suggests, the view from the east is something of a misrepresentation. You have not gone far enough, accuses the speaker. Your English bay, a mouth drawn shut, its trees cowering under an enormous Quebec sky, I cannot write. My words, small glimpses between this branch of fir and that. How West must have threatened to open you. Insofar as Lemieux's Far West stops at the Great Plains, it cannot do justice to the soaring Douglas firs which fill the skies of British Columbia, the place Bolster identifies as her source of inspiration around the time of writing Deux Personnages. The marked horizon of the painting closes down any possibility of Vancouver's English Bay and its opening onto the Pacific. Le Far West literally paints such a possibility shut, a gesture which Bolster's speaker experiences as muzzling. Now, I was going to say a little bit about this next painting, but I think I'm going to move on to my final reading of a second poem on this painting, which is called Les Beaux Jours Reprises. In the final poem of the cycle, Les Beaux Jours Reprises, the speaker returns to this painting and to the question of her relationship to Lemieux. That the poem is titled Reprise suggests that the speaker is more and more at ease in French, able to frame her engagement with Le Mieux in French, and importantly, free to assert her independence from him. Up to this point in the cycle, the poems have borrowed their titles from his paintings. Les Beaux Jours Reprise is not the title of one of his paintings. The poem begins, Tu me manques. The words, perhaps, of Madeleine Desrosiers, who is the subject of that painting, Les Beaux Jours, perhaps the words of Desrosiers in the context of Le Mieux's passing. But the speaker very quickly counters the assertion by loosely translating it into English and then riffing on it poetically. Tu me manques, to my English mind, means you are missing from me. But I don't miss you and am whole as I cross this white plain that is the river. Whereas the paintings present such landscapes and their inhabitants as numb, the speaker takes a different view. This was blue just months ago, rippled, and will soon return to ripples, to return to sea. Her reprise takes a second look at Le Mieux's 1937 painting in order to emphasize transformation and change, and to open an alternative perspective on his winter landscapes. Bolster's speaker registers her response to the emotion of the paintings. Specifically, she rejects his melancholy and the distance he places between himself and those who love him. Les Beaux Jours Reprise ends with a meditation on home, which returns the speaker not to British Columbia, but to herself, her own resources. It is as if, in her artistic trajectory, she has met Le Mieux through his paintings, but needs to move on. Home is my feet, laying a path I'll follow back. Sun streams through a buoyant sky to dazzle snow. My shadow flits, so quick it can't be fixed. Finally, and by way of conclusion, Stephanie Bolster's poems, this poem cycle specifically, addressed to Jean-Paul Le Mieux, do not, in my reading, suggest a simple or straightforward integration into what Judith Bissett characterizes as Bolster's Nouvelle Patrie. Canada is also always tugging at Bolster's poems, and it is important to accept that these poems have more than one potential cultural location or affiliation. When the speaker insists that home is my feet laying a path I'll follow back, she emphasizes movement rather than a sense of belonging or arrival. Hers are the comings and goings of a subject who is no longer dependent upon British Columbia. Though I made it wholly in my mind, she says in an earlier poem, though I made it wholly in my mind, that place I left was never mine. If Bolster eventually finds her feet in Quebec, it is not by making Quebec wholly or hers. There is no newfound patriotism. Rather, by entering into dialogue with Le Mieux and his vision of Quebec, she discerns her own vision. She links her work to the culture of Quebec, and yet allows her poems to stand alone in a way that asserts their specificity and their autonomy. Deux personnages does not provide readers with copies of Le Mieux's paintings in the way that I have done here. By offering poems as a way of engaging with paintings, Bolster effectively makes a space for her work alongside that of Le Mieux. Thank you.
Merci beaucoup. Donc on va passer à la période de questions après les deux communications. On a avec nous aussi Jean Portante, italo-luxembourgeois vivant à Paris, écrivain, journaliste, traducteur. C'est à peu près ça?
C'est déjà pas mal.
Professeur de création. J'ai oublié professeur de création littéraire aussi. Monsieur Portante, c'est à vous.
Oui, je suis un peu à l'extérieur du débat qui se déroule ici, mais je crois que si on s'en éloigne un peu, on risque de s'en rapprocher, n'est-ce pas? C'est toujours ce mouvement de faire un pas vers l'arrière pour se rapprocher des choses. Et je viens d'un pays, quand je dis je viens d'un pays c'est presque une métaphore, je suis né dans un pays qui est un tout petit, n'est-ce pas? C'était jadis le plus petit pays de l'Union européenne. Heureusement que Malte et Chypre sont entrés dans l'Union, et puis il y a les républiques baltes, hein, donc on se sent plus tellement petit parmi tous ces grands. Il est tellement petit, le grand duché de Luxembourg, qu'il a besoin de trois langues, donc sur son territoire. Je crois que ça le distingue beaucoup du Québec, hein, puisque il n'y a pas de territoire linguistique séparé. Donc les trois langues sont sur le même territoire, parce que c'est une historiquement la frontière en fait entre le monde germanique et le monde latin. Donc ça, elle passe par là, cette frontière, et quand les petits-fils de Charlemagne se sont partagés cette partie-là de l'Europe, eh ben, c'est resté sur cette frontière linguistique entre ces deux gros blocs qui sont le bloc germanique et le bloc latin. Voilà. Et donc il y a eu, historiquement parlant, dès le départ, une espèce de pendule qui va de l'un vers l'autre et amène parfois plus de l'un, parfois moins de l'autre. Donc ça dépend des régions. Ça commence par les Romains qui arrivent et qui colonisent tout ça, comme ils ont colonisé la Gaule, hein, Jules César, Omnis Gallia est divisa in partes tres. Voilà, donc, et apporte une langue, bien entendu, qui va s'installer, se développer, comme en France, à partir du celtique, hein, du gaulois. Mais dès la chute de l'Empire romain, il y a un retour de pendule, puisqu'il y a les peuples germaniques, les Francs, qui arrivent et qui balayent tout ça et apportent leur langue, et qui va être la langue de base du luxembourgeois, tel qu'on le parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire le francique. Donc c'est une langue franque, hein, qui arrive par les Francs. On pourrait dire grosso modo la langue de Charlemagne, pour Charlemagne qui est né à 40 km de Luxembourg, hein, à Aix-la-Chapelle, donc presque à la frontière du Luxembourg. Voilà. Et tout au long de l'histoire, donc, il y a eu ce pendule qui fait que, voilà, tantôt c'est une chose, plus une chose, tantôt c'est plus une autre. Et quand cela arrive vers une indépendance, ou un début d'indépendance, ça c'est au congrès de Vienne, donc on est en 1815. En 1815, le Luxembourg est entièrement français, intégré à la France par Napoléon. Ça s'appelle le département des forêts. Donc c'est un département, tout simplement. Louis XIV l'avait déjà intégré à un certain moment, puis c'était, à travers tout un tas de guerres, c'était devenu autre chose, puis c'est redevenu français. Bon, je fais des raccourcis, hein, puisque ça a été espagnol, hein, quand les Flandres ont été espagnoles, le Luxembourg sous Charles Quint était espagnol, ça a été bourguignon. Donc il y a eu tout un tas de passages comme ça qui font que le pendule linguistique va d'un endroit à l'autre. Le problème, c'est que quand on commence à vouloir le rendre indépendant, on ne sait pas trop bien quoi en faire. Hein. C'est souvent comme ça, quand on a des pays où on ne sait pas quoi faire. On ne va pas le donner à celui-là, sinon il va être trop puissant. On ne va pas le donner à celui-là non plus. Donc le congrès de Vienne a dit, ben, on va le laisser tout seul. Parce que c'était un endroit stratégique très important. La forteresse de Luxembourg était réputée imprenable. On disait la Gibraltar du Nord. Hein, donc on ne voulait la donner à personne. Donc on a fait tout ça, on l'a rendu indépendant, avec une condition que pendant 60 ans, des soldats prussiens ils fassent la loi. Et donc le pendule après le congrès de Vienne, c'est le pendule germanique qui est revenu avec les familles et tout ça. Ça a fait à peu près 80 000 personnes sur une population de 150-180 000 personnes. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal. Il y a eu à ce moment-là une chose aussi qui est assez intéressante, c'est qu'on a coupé un morceau qui était entièrement francophone, et qui est devenu le Luxembourg belge, la province de Luxembourg, qui est encore là, on appelle ça la province de Luxembourg, on ne peut pas dire du Luxembourg. Les prépositions parfois disent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Là, c'est vraiment, elle vient de Luxembourg, on l'a coupée. Et donc, ce qui est resté, c'est un territoire linguistiquement uniforme, avec cette langue qu'ont apporté les Francs, et avec le pendule du va-et-vient germano-latin ou germano-franco-germanique. Voilà, hein. Donc ça c'est à peu près comment tout ça s'est fait. Ça, pour en rendre compte, et comme le Luxembourg ne voulait ni regarder d'un côté ni de l'autre, il a pris les deux, et on a fait des langues du pays à travers l'éducation. C'est-à-dire dès le départ, quand la scolarité... au milieu du 19e siècle a été mise en place, on a tenu à ce qu'il y ait les deux choses et pas une. Ce qui fait que les Luxembourgeois, à partir de là, sont confrontés dès l'enfance à ce bilinguisme qu'ils apprennent à l'école. Je voudrais là faire juste une petite remarque au niveau de ce qu'on appelle langue maternelle, hein, puisque... ce sera important pour l'écrivain. Après, je vais parler un peu de ce que font les écrivains avec tout ça. La langue maternelle, c'est une langue parlée. Maman, papa ne nous apprennent pas à écrire. Donc, aucun écrivain, à mon avis, n'écrit dans sa langue maternelle, puisqu'il prend l'école, la langue que lui donne l'école, parce que l'école lui apprend à écrire quelque part. Donc, c'est plus complexe que cela. Puisque il y a bien entendu beaucoup d'enchevêtrements entre les deux, mais ce qui fait que les Luxembourgeois, ont comme langue écrite, ce qu'ils apprennent, c'est l'allemand et le français. Donc, ils sont alphabétisés en allemand à 6 ans et à 6 ans et demi entre le français. Vous voyez, hein, donc. Ça fait que, voilà, on est dans des choses. Donc là, le pendule, il fonctionne bien, puisqu'il a les deux choses en même temps. Mais l'histoire est différente que ce qui est toujours différente, puisque d'abord, il y a les grands mouvements historiques qui continuent. Au XXe siècle, le Luxembourg est annexé au Reich, donc il devient allemand en 40, hein, donc il fait partie de l'Allemagne. Donc ce n'est pas un territoire occupé comme la France, hein, il est tout simplement coupé et ajouté à l'Allemagne. Les jeunes luxembourgeois sont dans la Wehrmacht, seront sur le front russe. Le soldat russe ne fait aucune distinction, hein, quand il doit tirer, il ne va pas dire lui c'est ou alsacien, hein, on a le même problème avec les Alsaciens. Donc voilà, donc là ça redevient germanique. On interdit le français pendant 5 ans. Donc, on interdit les noms, les prénoms français. Parce que ça, c'est une spécificité luxembourgeoise. La plupart des Luxembourgeois ont un nom de famille d'origine germanique et un prénom français. Un des écrivains que vous connaissez, c'est Schlechter. Il s'appelle Lambert Schlechter. Vous voyez, hein. Anise Koltz, hein, Anise Koltz. Donc, la balance se fait comme ça avec le prénom, quelqu'un. Mais les Allemands ont... interdit ça. Donc, ils n'en avaient plus le droit que d'avoir des noms. Quand on allait avec les nouveau-nés, on n'avait pas le droit de mettre des noms français, des prénoms français. Voilà, c'est bizarre. Hein. Mais ça, c'est le côté germanique. Après la guerre, le pendule fait un mouvement complètement inverse, puisqu'il y a une immigration qui arrive, qui était déjà là un peu avant, qui vient d'Italie. Donc, il y a 3 millions d'Italiens qui sont passés par le Luxembourg sur une population qui, après la guerre, avait à peu près 280 000 habitants. Donc, ils ne sont pas restés. Donc, c'était beaucoup d'oscillements saisonniers. Voilà. Mais ça a traversé le pays. Beaucoup sont restés. J'en suis le résultat. Et donc, s'installe... de nouveau quelque chose, parce que pour un Italien, c'est beaucoup plus facile d'approcher la langue française que d'approcher la langue allemande. La deuxième immigration a été portugaise, quand ça se tarit, la source en Italie dans les années 60, c'est au début des années 70, une immigration portugaise. Il y a en ce moment 100 000 portugais au Luxembourg. Donc, c'est énorme. Maintenant, sur une population de 550 000 habitants. Voilà. Donc, vous voyez, là, le pendule va de nouveau vers la francophonie, si l'on veut. Et c'est vrai que petit à petit, s'installent des choses qui n'existaient pas avant, des journaux, des émissions de radio, télé, tout ça, pour rendre compte de cette situation. On est de nouveau à un retour de pendule, puisque les Portugais n'émigrent plus, les Italiens n'émigrent plus. Maintenant, c'est surtout du côté des pays de l'Europe de l'Est, Pologne. Et donc là, on risque d'avoir de nouveau un retour de pendule qui va balayer la francophonie au profit peut-être de nouveau de la germanophonie. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement que la ville de Luxembourg est un collage. C'est un collage linguistique. Dans ce sens, c'est intéressant, puisque le collage, à mon avis, c'est l'art par excellence du XXe siècle, n'est-ce pas? Là, on est dans le néo-modernisme. Vous vous promenez dans Luxembourg, vous regardez, il y a écrit boulangerie, et en face, il y a aussi une boulangerie, mais il n'y a pas écrit boulangerie, il y a écrit bakkerij. Hein, donc, et voilà, ça, c'est une réalité de ce pays-là. Les journaux, jusqu'à il y a quelques années, donc jusque au milieu des années 90, comment on dit ici, 90 ? Non, c'est en Belgique.
90,
qu'on dit était surtout germanique, donc allemand, avec des articles français à l'intérieur. Et le français, c'était un peu la langue de l'élite, de la bourgeoisie, des intellectuels. Puis tout ça, avec l'immigration, c'est devenu la langue du peuple. Et donc, à partir d'un moment, on s'est dit, et pourquoi on ne ferait pas des journaux exclusivement en français? Voilà. Il n'y a plus de journal exclusivement en allemand, mais il y a des journaux exclusivement en français. Donc, dans les journaux aussi, il y avait le collage. Hein. On lisait un article en allemand, l'autre, on passait d'un à l'autre. Alors, il manque quelque chose là-dedans, c'est le luxembourgeois. Le luxembourgeois, le problème, c'est tout simplement que les luxembourgeois eux-mêmes n'ont pas pris au sérieux leur langue parce qu'ils croyaient longtemps, les linguistes n'avaient pas bien fait leur travail, que l'allemand serait l'écrit du l'oral luxembourgeois. Voilà, hein, il y aurait l'allemand comme langue et puis un patois luxembourgeois. Donc, bon, les linguistes ont maintenant bien fait leur travail, font remonter le luxembourgeois au francique, c'est-à-dire à la langue franque, donc pré-allemand, de l'allemand vient de là. C'est le contraire, en fait, de ce qui s'est passé, de ce qu'on croyait. Mais parce qu'on croyait ça, on n'a pas pris au sérieux la langue et on a oublié de la codifier grammaticalement. Donc, elle a été codifiée grammaticalement en 1984. Donc, ça fait 30 ans, 40 ans. Avant, c'était une langue libre. C'est extraordinaire quand on a une langue libre, hein, sans normes grammaticale, sans normes orthographiques. Hein. La littérature qui se faisait dans cette langue-là, bien entendu, chacun écrivait dans sa langue personnelle. Mais n'est-ce pas ainsi de toute manière? N'est-ce pas ainsi? Et cela, c'est peut-être un des éléments dans le débat de ce matin. L'écrivain, qu'il soit francophone ou anglophone, autre chose, n'écrit-il pas dans une langue qui est la sienne et que personne d'autre ne sait écrire, en fait. Hein. Proust n'écrit pas en français, il écrit en Proust, il est le seul. Tolstoï en russe, etc. Il n'y a pas d'autres qui peuvent écrire cette langue-là. Hein, donc. Mais pour les luxembourgeois, c'était vraiment, même grammaticalement parlant, voilà. Hein, donc. Ce qui fait que la langue luxembourgeoise n'est pas entrée dans l'enseignement. Il n'y a eu que l'allemand et le français. Ce qui fait que les petits enfants à 6 ans, 7 ans, 8 ans font la géographie en allemand, les maths en allemand, puis à 12 ans, ils font la géographie en français, les maths en français. Donc, il y a tout un va-et-vient de ça. Voilà. Alors, en ce moment, au Luxembourg, à peu près la moitié de la population est de passeport étranger. L'autre moitié, c'est comme moi. C'est-à-dire, il y a une moitié dans cette moitié-là qui sont les nouveaux venus, italiens, portugais. Hein. Ça donne un peu la chose, l'image. Une ville comme Luxembourg, c'est une ville de 80 000 habitants pendant la nuit. Pendant la journée, c'est une ville d'à peu près 200 000 habitants. puisque de toute la Lorraine et de tout le Luxembourg belge, et même un peu d'Allemagne, on vient y travailler. Donc on apporte une langue aussi. Pendant la journée, la langue est une autre, même la langue parlée dans la rue est une autre que celle... Ce qui fait qu'un Luxembourgeois qui veut se croire de souche, quand il va dans un magasin, il ne sait jamais quelle langue utiliser. Parce que s'il se met à parler en français avec la vendeuse va dire « mais je parle luxembourgeois ». S'il se met à parler luxembourgeois, la vendeuse regarde et dit « vous pourriez... » Voilà, hein. Donc c'est assez bizarre comme situation, mais ça marche très bien. Donc il n'y a pas de problématique xénophobe et tout ça, pour une raison bien simple, qu'il y a encore du travail, n'est-ce pas? La xénophobie ne progresse que quand il y a concurrence sur le marché de travail. On va dire « ah, ils viennent nous voler notre travail hein. ». Quand tout marche bien, elle est là peut-être cachée dans les têtes, mais elle ne se manifeste pas. Voilà. Donc ça, c'est à peu près l'image. Moi, je rentre dans tout ça avec d'ailleurs, hein, avec une langue maternelle italienne. Et donc, je dois voir ce que je fais dans cela. Donc, je vais faire comme tous les voyageurs, tous ceux qui... Bon, il y en a ici, ben, il y a... Italo-canadien, même du Guatemala, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'adapte à la situation linguistique et on essaye de voir comment on peut travailler avec ça, surtout quand on veut devenir écrivain. Il faut faire quelque chose. Et surtout, si on n'a pas la langue maternelle qui n'est que parlée, et on ne l'a pas comme langue écrite. Voilà. Le problème, c'est qu'au Luxembourg, il faut choisir. Il n'y en a pas une seule, donc il faut choisir entre l'allemand et le français. Et c'est ce que j'ai fait, donc moi j'ai opté pour le français. Parfois le choix se fait d'une façon bizarre, hein, mais le plus souvent c'est l'université qui fait l'histoire, puisqu'au Luxembourg il n'y avait pas d'université, jusqu'à il y a 10 ans à peu près. Et donc il y avait ce qu'on appelait un exil intellectuel. Tous les jeunes, il manquait toujours une tranche d'âge d'entre 18 et 25 ans, quelque part, qui était en Europe, partout, et n'était pas au Luxembourg, donc, puisqu'il n'y avait pas d'université. Alors, il y en a qui vont en France, qui vont en Allemagne, et de là vient aussi, peut-être, la chose. Voilà. Dans mon cas, et je vais terminer sur ça, se posait le problème, je ne savais effectivement pas comment écrire, et donc j'ai fait le collage. J'ai commencé avec des collages. Ça me semblait évident. Donc, mes premiers textes, il y a toutes ces langues qui sont dedans. Un verbe venait en allemand, je le mettais en allemand. Un autre venait en français, mais même en luxembourgeois, en italien, bien entendu. Voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte que travaillait en moi quelque chose qui était très fort, et c'était cette origine. Donc, il y avait comme un travail de l'origine à l'intérieur. Et je ne savais pas comment travailler avec ça, puisque je n'avais pas appris à écrire l'italien. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un voyage, je suis parti, je suis allé très loin de tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, quand on s'éloigne, on se rapproche. Je suis allé en Amérique latine. Donc j'ai pris une énorme distance, j'avais écrit 2 ou 3 livres de collage, comme ça. Là ça s'appelait Horizon, Vertige et Italie intercalaire, des choses comme ça. Donc on voyait vraiment que je ne savais pas dans quelle langue écrire. Mais depuis l'Amérique latine, j'étais aussi au bord de la mer, j'ai passé 3 années d'abord à La Havane, à 700 mètres de la mer, donc m'est venu un souvenir, et ce souvenir-là a tout déclenché. Il s'est fait qu'en 1953, quand j'avais 3 ans, au Luxembourg, on a eu une visite assez spéciale. Et cette visite, c'était une baleine. Une baleine, voilà. Qui était transportée comme attraction de cirque. Hein, donc, elle s'appelait Mrs. Roy. Parce qu'elle avait été pêchée au Cap Roy, c'est au large de la Finlande. Pas pêchée, tuée, puisque... Une attraction de cirque à ceci près qu'elle était morte, et dans le cirque, les animaux normalement restent vivants. Voilà. Donc. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ça, ce que tu es. C'est ça. Tu es une baleine. Et parce que, après, je me suis mis à rechercher tout ça. Donc, La baleine, elle montre quelque chose, mais elle est autre chose. Elle a à l'intérieur d'elle quelque chose qui fait qu'elle n'est pas comme ceux qu'elle a rejoints dans l'eau, parce qu'elle a rejoint. Elle a vécu, avant de vivre dans l'eau, la baleine a vécu sur la terre ferme. Les scientifiques disent que c'était un énorme chien, à l'époque où les animaux étaient encore très énormes, n'est-ce pas? Et à un certain moment de son évolution, cette baleine décide de s'en aller et de faire un voyage vers la mer. Presque de rentrer, hein, puisque la vie vient de là. Donc elle dit, je rentre dans la mer. Elle a bien fait, parce que c'est le seul animal à la taille disproportionnée qui a subsisté. Tous les autres ont disparu, hein, donc c'est presque un voyage existentiel. Ça me convenait très bien, puisque les migrations, mes grands-parents et mes parents ont migré pour des raisons existentielles. Donc c'est pas pour l'aventure, hein, et peut-être que la baleine aussi. Donc j'avais déjà une affinité avec ce voyage de la baleine. Et que fait cette baleine? Mais tout simplement, elle s'adapte à la nouvelle donne. Pour s'adapter, elle prend une forme, elle regarde autour d'elle, hein. Elle dit, ah ben c'est comme ça, il faut être aquadynamique, alors je vais être aquadynamique. Voilà. Je ne peux pas avoir de pattes, donc elle va transformer ses pattes, elle va avoir des nageoires. Hein. Et voilà, elle fait tout un tas de métamorphoses sur elle-même, j'appelle ça des effaçonnements. C'est d'ailleurs un de mes livres, s'appelle Effaçonner, donc j'ai dû, pour certaines choses, j'ai dû inventer des mots, puisqu'il n'existe pas dans la langue pour dire tout cela. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle efface quelque chose d'elle, elle façonne une autre pour ne pas rester sans rien. Voilà, hein, donc. Mais a-t-elle agi par bêtise ou je ne sais pas? Elle a oublié une chose essentielle par laquelle elle aurait dû commencer la métamorphose. Elle a gardé son poumon. Et donc, elle ne peut pas vivre dans l'eau. Elle est vraiment ne pas encore aquatique, mais ne déjà plus terrestre. Et c'est comme ça que j'ai senti mon écriture. Ne pas encore du français, ne déjà plus de l'italien. Et donc, elle m'a servi à beaucoup de choses, cette baleine, puisque je me suis dit, mais alors, si elle a un poumon, si son origine, ou si son passé poumonne, parce qu'il faut aussi trouver des verbes pour ça, poumonne en elle, eh ben chez moi aussi, quelque chose poumonne en moi, et en ma langue, quelque chose poumonne à l'intérieur de la langue. Et donc j'ai pris la langue française comme la baleine sa forme, et j'ai gardé à l'intérieur le poumon de la langue italienne. C'est pour ça, quand on me demande dans quelle langue j'écris, des jours, une langue baleine. Voilà. Après, il faut faire les langues d'explication. Mais c'est ça, donc c'est une langue dans laquelle poumonne l'autre langue. Mais pas seulement elle poumonne, elle donne tout. Elle donne la métaphorisation. Elle donne, pour la poésie, le rythme, les sonorités. C'est elle qui est importante, mais on ne la voit pas. C'est comme dans la baleine, on voit. Hein, les enfants disent, ah, un poisson. Non, 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 absolument pas. Voilà, elle cache en fait son trésor, ce passé. Elle l'emporte avec elle, comme je pense tout migrant emporte avec lui ce passé. Il est quelque part là. Et un Italien des États-Unis écrit autrement qu'un Allemand des États-Unis ou qu'un Norvégien des États-Unis. Il y a ce bagage, ce poumon-là qui fait des choses. Je vais terminer sur peut-être deux exemples qui montrent comment ça peut être fondamental. J'en ai déjà parlé la dernière, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là dans la librairie Gallimard. Hein. Je parlais d'un instrument qui est un instrument autobiographique qui est dans mes romans et dans mes poèmes. C'est une pelle, n'est-ce pas? Parce que, voilà, hein, c'est ça notre histoire. Hein. On travaillait la terre et puis on a travaillé dans les mines. Donc il y avait toujours cette pelle qui est un instrument fondamental, hein, de mon autobiographie, si l'on veut, même si moi-même je n'ai pas manié la pelle. Hein. Voilà. Mais il se fait que chaque fois que j'utilise ce mot-là, moi je ne pense pas à appel, mais je pense au mot italien, qui est exactement le même, pelle, et qui veut dire la peau. C'est-à-dire que quand dans mes poèmes la pelle apparaît, il n'y a rien qui parle des mines, des choses, non, on parle d'autres. Y a la métaphorisation vient de l'italien, elle ne vient pas du français. J'en avais parlé aussi chez Gallimard, ça me permet de raconter en un seul mot un élément fondamental de mon autobiographie, c'est un grand-père qui a laissé sa peau en maniant la pelle dans les galeries, puisqu'il y avait un accident en 1932, et il est mort. Donc je peux dire avec le mot pelle, je raconte une histoire qui va au-delà de cet instrument, et donc voilà. Et comme ça fonctionne cette langue, je prends un dernier exemple, puis je crois que j'ai dépassé longtemps, non, ça va. que j'ai aussi donné, parce que c'est des exemples qui sont plus pédagogiques, disons, parce que le reste, il faut, juste le rythme aussi. Donc je traficote beaucoup la syntaxe, parce que le français se rue vers sa fin, et l'italien, il fait... Et donc je traficote la syntaxe pour qu'on arrive à un rythme et à une musicalité qui n'est pas celle de la langue française, mais celle de la langue italienne, même si tous les mots sont français là-dedans. Voilà, un dernier exemple, j'en avais parlé, c'est la bougie. J'aime beaucoup hein, les bougies. Il y en a dans tous les livres, j'ai des bougies. Mais quand je mets bougie, rien ne s'éclaire. Dans la métaphorisation du poème, il y a toujours du sombre. Donc, et ce n'est pas par esprit... du paradoxe, mais tout simplement parce que c'est pas ce mot-là qui compte. Il y a le mot italien qui compte, bugia. D'ailleurs, le mot bougie en français est intéressant. Il vient d'une ville, c'est un mot arabe. Hein. Il vient de la ville de Bourrias, où on faisait la cire pour les cierges des églises. Donc une cire assez chère. La cire venait de Bourrias, donc c'est une ville algérienne. Hein, voilà. De là vient le mot. Ce qui est intéressant aussi de voir comment les mots voyagent. Ce matin, quand vous parliez, vous avez vos exposés, j'essayais de décortiquer dans les phrases anglaises combien étaient d'origine latine et française et combien étaient d'origine germanique. C'est intéressant ça. Hein. Quand tu dis, même pour dire writer and author. Writer, c'est le schreiber, et author, c'est l'auteur. Hein, donc, parce que c'est intéressant comment ces langues elles-mêmes se rencontrent. Le français qui rencontre l'allemand, et ça devient l'anglais. Et quand ils se rencontrent, il n'y a pas de conflit. Le conflit, c'est quand on les sépare de nouveau. Et ils se disent, ah non, toi, tu... Hein, même les Français demandent à l'anglais un visa pour revenir dans la langue française. Hein, donc, c'est assez... Alors que beaucoup de mots... sont partis, ont changé de sens. Un français ne dira jamais computer. On se demande pourquoi. Hein. Computer est un mot complètement français, donc ils pourraient reprendre le mot. Non, ils ont dû en prendre un autre. Hein. Donc, parfois, ils sont. Je m'amuse beaucoup avec ça. Non, j'arrête. Hein. Je m'amuse beaucoup avec ça parce que ce voyage des mots dit beaucoup plus de choses, en fait. Sur les langues que toutes les guerres qu'on fait pour imposer sur des territoires des langues. Alors le mot bougie, tout simplement en italien, bugia veut dire mensonge. Donc c'est le contraire de la lumière. Ça assombrit les choses. Et moi quand je parle de bougie dans mes textes, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est l'autre métaphorisation. Et je pense que c'est une façon de créer une langue qui est tout à fait personnelle, dont j'ai besoin pour rendre compte de ce qu'a été ce voyage dans un territoire multilinguistique. Ça va?
Je vais essayer de ramener ça un peu ensemble quand même, ces deux présentations très différentes. Il y avait... Quoi?
Non, ben, je ne pense pas non plus. Hein.
Oui,
mais je pense aussi. C'est une baleine. Il y a beaucoup de baleines.
Son, c'est The Undoing of Anglo.
Quebec history.
History. Et qu'elle a décrit dans sa intitulation, c'est une poète qui se refait quand elle prend des caractéristiques baleineuses.
Le balinguisme.
L'idée du baleine, c'est pour moi, ça me touche beaucoup parce que, comme enfant d'une italienne, il n'y avait pas de livre dans la maison. Alors, mes premiers mots étaient italiens. La seule littérature dans la maison, c'était le journal de Montréal. C'est mon père qui disait ça, à moi. Donc, c'est des histoires affreuses. Alors, mon usage anglais, c'est toujours pour moi un peu étrange, parce que ce n'était pas mes premiers mots. Alors, ça me touche beaucoup, cette idée de vivre dans deux mondes, comme un animal. Mais aussi comme une poète anglo-québécois, je me sens beaucoup comme une baleine. Je me sens un peu à l'aise, mal à l'aise ici, un peu mal à l'aise en Canada. C'est une idée très... très powerful. Mais la chose avec la baleine, c'est qu'il prend l'espace. It takes space. Mais c'est pas un petit animal.
Non.
Alors tu c'est un effort à dominer aussi.
Oui.
Yeah. Le tragique.
You don't disappear, is what I'm saying. If you're a whale, you don't disappear. You have to be noticed. Yeah. You take up a lot of space.
Uh-huh.
But you move slowly and you're easy to kill.
Uh-huh.
Although it might take a while to kill you.
Yeah. You are killed when you come on the surface. And it must come at the surface because it can't breathe in the water. It's a very tragical. Mm. Moby Dick is that. Yeah. It's killed when it comes. When it is inside the water. Nowadays they kill them also inside the water because they imitate the sonar. The whale has a sonar whistle. And then you can imitate that with the ships and the submarines, and then the whale, and they can kill it like that. But
je ne sais pas si vous permettez, moi je commence à me sentir baleine aussi parce que je suis né dans un petit coin où on parlait seulement créole et en Haïti, et c'était une province. Je devais rentrer à Port-au-Prince, là où il y a les universités, où l'on parle vraiment d'autres langues, comme français par exemple. Et il n'y avait pas de livres chez moi, où il y avait une sorte de rapport avec la langue et la culture française. Et en arrivant à Port-au-Prince, je devais utiliser la langue française. Deux, trois ans plus tard, je commençais à utiliser la langue française et en utilisant aussi, en insérant aussi des réflexes ou des phrases, des bribes de phrases en créole. Voilà. Est-ce que ça fait de moi une baleine ou quoi?
Oui. Il y a beaucoup de baleines.
Oui, il y en a qui parmi nous qui cherchent à être baleine aussi, qui cherchent notre propre distance et hétérogénéité avec le...
Oui, parce qu'il y a aussi des histoires des baleines qui font part d'une species qui n'existe plus. Alors, ils chantent dans l'océan et il y a personne qui répond. Il y a beaucoup d'histoires de ces types de baleines qui sont toutes seules.
Karim, je crois que tu as une question.
Oui, Karim Larose a fait une question pour Liane. Ça m'a beaucoup intéressé là, le rapport de médiation entre la poésie de Bolster et le mieux. Mais peut-être ce qui m'a intrigué le plus, c'est le fait que ça passe par du figuratif. C'est-à-dire, tu parlais d'intraduisible au début, justement, ce qui échappe à la question du langage. Et en même temps, ce qui est choisi comme façon de créer des ponts, c'est la figuration. Et c'est une œuvre des années 30, 1937, dans l'histoire, je dirais, de la peinture au Québec, l'histoire de l'art au Québec, c'est pas nécessairement le corpus artistique qui se démarque là, à ce point. Et je me demandais comment tu lisais le fait que ça passe par la figuration, ce type de figuration, et pourquoi pas, je sais pas, moi, Serge Lemoine, des installations plus contemporaines, pourquoi pas Riopelle, évidemment, ou Marcel Ferron, ou d'autres types de corpus, je dirais, peut-être plus remuants, pour passer, pour trouver des passerelles. Et c'était ma première question. Et la deuxième, est-ce que tu vois d'autres œuvres du côté canadien-anglais ou anglo-québécois qui utilisent de façon aussi structurelle ce type de stratégie littéraire?
Je pense que je vais répondre en anglais si je peux. I'll be able to think my way around these questions more readily. Those are very helpful questions, and I think you are teaching me things, actually. This is very new. It's work that I had done the work on literary history. It was that Samuel contacted me for, but I thought I'm not going to repeat myself in terms of literary history. I'm going to try to do something different. And I've loved teaching Stephanie Bolster for some time, and that's where this came from. But I have to admit that it's not a... it's not a field I've done enough research in yet. So what you're saying is, in fact, she might have chosen others. There are other painters with whom she might have dialogued. When you say figurative, you're speaking specifically about his mode, Le Mieux. It verges on abstraction at times in the middle century, but in general, he's known for his figurative. And I think that it's very true that places slightly in question my opening remarks about non-translatability and the incommensurability of media, the fact that they are different from each other. The painting will never be the poem, the play will never be the film, and so forth. They are different media. And I was aware as I worked through the poems that I think that this is a problem. I need to look further in the poems for evidence of that problem of mediation. I think that where this cycle of poems raises questions is with regard to her autonomy, her relationship to Le Mieux, her relationship to the landscape, her difficulties of locating herself and of managing to write vis-a-vis that. I mean, so there's maybe the beginnings, and I need to do more with that question to really actually prove what I say at the beginning. To answer your question, so if as far as visual art, I need to learn more about Quebecois visual art if I'm going to pursue that, but as far as other Anglo-Quebec writers, I think there are a lot of writers that I should maybe start thinking about more in these terms. As I said, it's very new. I wanted to think about intermediality, but I couldn't quite get there. I thought, no, what you're doing here is more inter-arts. Mm-hmm. But I'm very interested in the work, for example, of Robert Maisel's, which is intermedial in his 85s, and where the question of translation and illegibility and so forth is very much in your face, you know, because that's what you're trying to read, and these 85s are 85 characters which are whose disposition on a vertical screen is there are no spaces between the words, so you struggle as a reader to actually read these poems which are made up of 85 characters. And so there's work like that I think needs to be thought about in these terms, because he moved away around the time he started these. They haven't been taken up that that much. But that's one other place I would go. I have other writers to discover. I want to go and look at other conversations via the plastic and visual arts.
The other, if I may, the Stephanie Bolster moved from Vancouver to Quebec City to be with her husband. So, so she moved from,
Was from Ottawa.
Who's from Ottawa. C'est vraiment la première fois qu'elle a vu tellement de neige. Tout a changé pour elle, même la langue qu'elle parlait avec son mari. Alors, je pense qu'elle voyait dans le mieux une manière d'écrire un poème différent. Alors, la manière figurative de le mieux, ça a inspiré à écrire un poème plus simple. Tu vois une différence. Simple. Il y a une différence entre les poèmes dans ce premier livre et c'est le poème, et même les poèmes dans le livre qu'on trouve cette cycle, c'est le langage est très très simple, very strict. Il y a des mots français, il y a peut-être un syntaxe français aussi. Alors c'est, quand je lis ce poème, c'est ma façon que je comprends ce poème, c'est la première fois qu'elle essaie à penser des pensées différentes. Même de l'amour, de citizenship. C'est vraiment la première fois qu'elle parle français. Alors, on trouve tout dans ce poème. Même comme influence, tu ne peux pas choisir quoi c'est quoi tu veux toucher. You can't choose what your influences are going to be. You can't decide. You can't use logic when something strikes you, when you want to write about it. You can't say, for example, I should choose something more contemporary. Something, you're standing in front of something and it inspires you to write about it. It's a force that you can't really negotiate with, I find. Maybe afterwards you can say, I should have done something different.
I think there's some kind of familial connection between Patrick Leroux's and Lemieux.
Yeah,
there is some kind of connection. I taught with Patrick a few years ago, and I remember him explaining some of the background, which I didn't go back to. I didn't go and re-inform myself of that, but I'd like to. But she also in Two Bowls of Milk has a whole sequence in the National Gallery in Ottawa, and so there are other, but it's not of the kind you're wondering about.
She's also a figurative poet. She builds images.
Yeah.
So, and also there's this notion somehow of when the history of art of Quebec, the story is told, it's always the same about the revolutionary value of some painters, whereas others are more like these kind of off-kilter traditionalists. And I think this story might be becoming a mistake because in many ways I think the expressionist, abstract expressionists, they were reacting to trends that came from elsewhere and introducing them here, whereas a guy like Lemieux who's doing this kind of abstract landscape painting, he doesn't seem as rigorous or adventurous maybe because he's not situating himself within that explosion that has been told as a defining moment, and which was. But it was not the only thing going on, and when you go back to the antecedents of Bourdieu, for example, like Osias Le Duc, who seems like a total traditionalist, he was a sort of revolutionary by his rigor and the way he practiced painting even before that historical moment was dramatized and created as a narration that then became the staple of the way we tell the story of Quebec. So it's not like these guys were right and that dude, because he was doing landscapes, abstract landscapes, and alone, and not necessarily as representative of the historical moment defined in university terms. I think it's important to, and it brings it back to the fact of the singular experience of particular work by a poet with a singular consciousness.
Mm-hmm.
Also, it struck me in thinking about it too that that one of the things that I noticed when I went out to Vancouver, Western Canada, for the first time when I was 19, and I felt at that time that that place had no history, and it goes back to the idea that Canada, the idea of Canada and English Canada, is more geography than it is history, because the history, except for in Quebec and parts of Ontario, is only from the 1800s, 1880 in some places. Calgary was built in 1880. Whereas when we think about Quebec, our history goes back way back to when Samuel de Champlain was here, you know, and we think much more in terms of a historical antecedents instead of geographical ones.
Mm-hmm. Oui, Karim, tu veux...
Simplement pour réagir, en fait, ma question ne présupposait pas une histoire de l'art en termes normatifs, là. C'était plutôt la question de la traductibilité, le rapport entre figuration et traductibilité, et il me semble qu'il y a un rapport quand même un peu différent, et je pensais aussi à ce qui se fait du côté de la poésie de langue française. Denise Desautels, dans son dialogue avec les arts visuels, elle se situe par rapport à un certain corpus, et c'est simplement en fait, l'interrogation qui est sous-jacente à tout ça, il me semble, c'est qu'est-ce que ça signifie, se situer par rapport à le mieux, plutôt que par rapport à telle autre période, quelque chose qui se fait actuellement dans l'art de performance. En fait, ce sont quand même des choix qui ne sont pas anodins, et donc c'est simplement essayer de voir ce qui, je ne sais pas, dans un certain appel de l'espace, vient nous dire de l'œuvre qui est créée, du dialogue qui est créé entre littérature et orphisme.
I was also thinking about what you're talking about in terms of your poetics as a collage, the multilingualism and a collage of language, but also the ekphratic poetics is also a collage in its status as entirely relational poetics. That is of course a kind of Bolter's a figure of poet perhaps, but that doing ekphratic work is always insisting upon a very kind of particular relationality. And it makes me think about the absence of the painting and the presence absence of the painting in the poem. But that trace of the poem, or sorry, the trace of the painting is always there as a kind of yearning, as a kind of question, but that the poem doesn't exist without that, and that it is intensely relational in the same way that a collage poetics is intensely relational. That with the multilingual poetics, those languages rub against each other. They have a kind of montage or juxtaposition poetics that produces these kind of proliferations that can only happen in that kind of relational work. And it's that what's a connection that brings your work together for me, or your two presentations together for me, is this a kind of a preoccupation and an aesthetics of relationality that I find really fascinating and that registered for me intensely in the work. And I'm not sure that necessarily the painting and the poems need to be fundamentally incommensurate, but that they are in conversation in a kind of hybrid temporality, that the painting changes because of the poem. Mm-hmm. Mm-hmm. And that once you've read the poem, you can never see the painting again the same. Like the white space is so intensely transformed by thinking about that as a poetic white space. Mm-hmm. And I love the way that you were writing about it. But I'm also really interested in this collage poetics that you're working on, and you talk about collage being the fin de art pour le 20e siècle, les deux, because collage and montage.
Picasso and
of course, and you know, cabaret in the beginning of the 20th century, Ernst Bloch talks about Benjamin and all of the others as being intensely cabaret, but cabaret, montage, Eisensteinian juxtaposition, and collage are all very similar. And that they, in different eras, they get described as the art of the era for different reasons. Uh-huh.
And I love the way, I'm not sure I have a question here, but I love the way that you frame your poetics as a linguistic necessity for this very, a very kind of, Donna Haraway would call it a situated knowledge, that the poetics that you are writing is intensely situated in Luxembourg, and the way that you historicize it makes such brilliant sense. So thank you very much for that. And I can't think of how to phrase it as a question that's intelligible, other than I just really appreciate the way that you are thinking about it and framing it in that particular history and moment and linguistic assemblage.
Je pense que le travail de l'écrivain, c'est, comme disait Eliot de Pound, dans The Wasteland, il met une dédicace, il dit « al miglior fabbro », au meilleur forgeron. Je pense que le travail de l'écrivain, c'est de forger une langue.
Oui.
Ça, c'est son travail. Donc, après, bien entendu, la langue n'est pas pour elle, il y a tout ce qui est dedans, mais il doit forger une langue et qui est à lui. Et qui, là, on rejoint un peu ce qui se dit sur la traductibilité, qui est intraduisible, puisque celui qui va la traduire, s'il est aussi écrivain, a aussi forgé une langue, et va rencontrer celle-là, et dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'intraduisibles, en fait. Donc, moi, je me souviens que mes livres sont presque tous traduits en italien. C'est quelque chose de très bizarre, ça, parce que ça veut dire qu'on sort le poumon de la langue et on le met sur la table. Mais il n'y a plus de langue qui poumonne, c'est une autre langue. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus, mon écriture a complètement disparu dans chaque traduction. Puisque, à moins que celui qui traduise ait aussi forgé une langue avec une langue poupée russe, en quelque sorte, avec une langue à l'intérieur. Donc, mais je pense que le travail de l'écrivain, c'est ça. Hein, donc, c'est de forger une langue qui soit à lui et seulement à lui, mais qui a ce... C'est merveilleux que tout le monde peut lire et comprendre, mais personne ne la lit de la même façon. Donc, chacun, quand il ouvre le livre, va la lire comme avec son intime, il va entrer dans ces choses-là. Pour moi, c'est fondamental, oui, effectivement. Mais ça vient d'une nécessité vitale, puisque je n'en avais pas. Moi, je n'avais pas de langue. J'avais une langue orale, qui est l'italien, et puis on me met dans l'école, et tout ça, c'est comme si on jette la baleine dans l'eau, comme ça, au début. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait, hein? Voilà, elle doit faire quelque chose. Donc c'est vital, et donc ce n'est pas une construction... Parce que même le collage peut être une construction artificielle. Mais mon collage ne pouvait pas être ça, c'est tout simplement ce que je voyais autour de moi quand j'ai commencé à écrire. Hein. Si je vois une langue, une autre, laquelle je vais privilégier, je veux en privilégier aucune. Et donc je les mets ensemble et ça donne une... Par le jeu de la contamination des langues, ça réinvente aussi quelque chose, n'est-ce pas? Puisque cette juxtaposition n'est pas seulement une juxtaposition. Les sonorités de l'une vont se faufiler dans l'autre et ça donne quelque chose. Mais ça ne me satisfaisait pas. Donc le collage, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait 4 livres. Puis je me dis, ben non, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Et là, heureusement, il y avait la Havane et la baleine.
J'allais dire qu'une des beautés de Montréal... De notre contexte, c'est qu'on a des traducteurs, des traductrices qui arrivent à comment dire exactement, ce que vous avez dit, c'était que quand on vous a traduit, il n'y avait plus de poumons.
Oui,
poumons. Yeah. Mais il y a des traducteurs ici, on en a parmi nous, très conscients de la relation entre les poumons. Et la baleine, et le fait qu'il y a quand même une relation de pouvoir, d'histoire, de contact difficile, etc., qu'il faut faire vivre dans le texte traduit.
Oui.
Et je pense que c'est dommage que vous n'avez pas été traduit par... à Montréalais.
Voilà. En français, encore. Une deuxième version française, ce serait extraordinaire.
L'italo montréalais, le nous tout plaît.
Oui, mais je dis, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît déjà ce.
Oui,
c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en aurais peut-être une avant de terminer, parce que c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois, et dans ta communication, et Thiel vient de le prononcer en parlant d'espace. Puis là, on parlait d'un espace qui devenait interrelationnel, finalement, dans la peinture, et qui prenait racine dans le poème. J'ai l'impression qu'on... Karim aussi a parlé d'espace. J'ai l'impression qu'on oppose un peu cette notion-là, ou cette métaphore-là qui est l'espace, à ce qui serait le territoire ou quelque chose de circonscrit. Ce serait comme dans une espèce d'ensemble de relations un peu métaphorique qui aurait finalement une espèce de contact entre les langues ou entre les médias ou entre ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette métaphore-là? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit espace? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais il me semble que c'est une métaphore sur laquelle on n'arrive pas tout à fait à mettre le doigt. Peut-être ramenons-le à la baleine.
C'est l'espace à l'intérieur du poumon. À l'intérieur là. Mais moi, quand j'ai parlé de l'espace, c'était surtout, c'était presque conceptuel, abstrait. Mm-hmm. La difficulté, le défi de l'espace dans un contexte canadien, c'est que le Canada a souvent utilisé l'espace pour effacer la difficulté de la langue. C'est-à-dire on connaît tous le même pays, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. Alors la géographie, l'espace, a souvent fourni les métaphores d'oubli, de différence. Je ne sais pas si je m'exprime. C'est-à-dire que l'espace peut, quand ça devient très géographique, ça devient, comme j'ai utilisé the expression land claims, mm-hmm. ça, mapping a space is a way of claiming a space, mm-hmm. and is not always a way of making visible the differentiations mm-hmm. that might come forward if we didn't focus on space.
C'est comme la baleine. L'espace est une espèce en voie de disparition. Quelque part.
Dans le cas de Thiel, c'était la question de l'espace scénique, finalement, l'espace qui se créait sur la scène
c'est,
aussi.
C'est un espace physique, mais aussi un espace conceptuel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
I forget the name of the writer. He was, but his job was to approach First Nations in Alberta and British Columbia, and discover what their territory was. And in order to do that, he just kept on interviewing everyone, asking them where they had been, where their grandfathers had been, where their grandfathers had been, and learning all the stories of that country, and then defining the country by the fact that they had stories about it.
So. Is it Rudy Weeb?
No, it's not him. It's that. I'll remember.
More recently.
Merci beaucoup pour.
Merci. Merci de m'avoir invité.
On va prendre une courte pause.
Radio Spirale.